Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Sait-on que dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, situés à quelques kilomètres d'Orléans et de Paris, furent internés 4400 enfants, arrêtés avec leurs parents dans le cadre de la rafle du Veldiv entre le 19 et le 22 juillet 1942? Sait-on qu'en attendant l'autorisation de Berlin pour déporter les enfants, qui n'arrivera que le 13 août, les autorités françaises décident de déporter d'abord leur mère? Vous êtes notre invité aujourd'hui, Roland Cos, et vous qui êtes écrivain, que nos auditeurs connaissent sans doute par votre très beau livre sur les enfants d'Izieux, vous avez choisi de raconter à présent cette histoire du convoi des mères qui vient de paraître aux éditions du Cercil sous forme d'un ouvrage magnifiquement illustré par Gilles Rapoport, un ouvrage soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je rappelle que le Cercil, centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret, a ouvert depuis 3 ans à Orléans un musée, le musée mémorial des enfants du Veldiv, qui explique l'histoire des camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau, et qui propose une très belle programmation culturelle. Le Cercil publie peu de livres, mais à chaque fois ce sont des livres très marquants, sur le fond comme sur la forme, et Le convoi des mères en est un nouvel exemple, un livre qui ne manque pas de surprendre. En effet, l'on y trouve votre texte, Roland Cos, sur laquelle nous allons revenir, mais aussi en regard des dessins de Gilles Rapoport, des documents administratifs qui sont agrandis de telle sorte qu'ils ne sont pas lisibles, ils sont tronqués. Il y a aussi des portraits en noir et blanc d'enfants sur papier calque qui sont là comme des fantômes de papier venant hanter le livre et notre mémoire. Bonjour Roland Cos. Donc c'est un texte très court mais très intense que vous signez là. Est-ce que vous pouvez revenir d'abord peut-être sur la genèse de ce projet ?
Bien sûr, bonjour. Oui, il se trouve que je fais des critiques de livres pour enfants et que j'étais en train de chroniquer le dernier été des enfants à l'étoile, 1942. Une rescapée se souvient, et cette rescapée, c'est Annette Kragère, une petite fille alors qui était avec sa sœur et sa mère à Pithiviers. Bien sûr, ils avaient été arrêtés dans les arrestations et mise au Veldiv pendant 3 jours affreux, et ensuite jetée au camp de Pithiviers. Tant que Annette était avec sa maman, sa petite sœur, les choses allaient. Mais un jour, leur père n'était pas avec elle, on a déporté les pères. Plus de 1000 pères et des grands adolescents sont partis au tout début d'août. La semaine d'après, ce fut les mères. Et là, ce fut tragique. Tragique pour tous les enfants, encore plus tragique pour les mères qui abandonnaient leurs tout-petits, que les gendarmes séparaient, laissaient sur le sol, et les deux petites filles vont être là, témoins du départ de leur maman. Moi, je lis ce livre, je dois faire la critique, louangeuse bien sûr, parce qu'il est très bon, et je pleure. Me vient l'idée d'écrire quelque chose. L'émotion a été si forte, je me dis, il faut communiquer ce qui s'est passé dans ce camp, dans ces moments où il y a eu d'abord le départ des pères, le convoi de plus de 1000 mères, 1034 mères. Elles ont bien sûr été directement envoyées à Drancy, à Auschwitz, et 4 seulement, et c'est miracle parce que nous sommes en 1942, rentreront. Et ces enfants abandonnés. Alors là, je réfléchis, cela se met dans ma tête et me revient dans un petit tiroir de ma mémoire. Lorsque j'ai découvert ces camps, il y a 35 ans environ, dans un journal qui est l'Express, un journaliste avait écrit, j'ai interviewé une vieille dame et elle m'a dit, monsieur, j'ai toujours dans les oreilles les cris des enfants. Cela s'était mis, je l'avais oublié dans ma mémoire, et c'est revenu. Et cette vieille dame m'a fait point de départ de mon texte. De mon texte qui se passe, on peut dire, aujourd'hui, dans un aujourd'hui pas daté. une très vieille dame qui vient dire à des gens des municipalités autour ce qu'elle a vu.
On se pose la question de est-ce que c'est une fiction, cette vieille dame, ou est-ce qu'elle a existé ? Donc là, vous répondez à cette question, en fait.
Oui, voilà. Elle a existé. Moi, je l'ai reprise dans ma tête. Donc, c'est aussi une fiction, mais une fiction qui s'appuie sur des faits exacts, sur des faits vrais, réels, tragiques.
Donc, le texte a d'abord existé. Et après, le Cercil en a pris connaissance et vous a contacté, ou c'est plutôt vous
qui... Pas du tout.
Comment ça s'est passé ?
J'ai écrit le texte, je l'ai écrit en Colombie, parce que j'avais fait cette critique de livre en juillet, je partais en Colombie, mais cette obsession de ce texte me revenait. Et à un moment donné, où j'ai pu avoir du temps, dans un climat tropical merveilleux, je me suis mise... enfermé dans une chambre à écrire ce texte. Une fois qu'il a été écrit, je l'ai abandonné. J'ai continué mes vacances et en septembre, je l'ai repris, travaillé, modifié légèrement, perfectionné parce qu'il faut que l'écriture soit juste. J'écris comme un funambule sur un fil et tous les mots doivent être exacts, vrais. Sinon, il tombe.
C'est le cas, votre texte est très très juste.
Je veux mettre une distance afin que l'émotion du lecteur soit prise presque dans cette froideur. Et là, lorsque le texte a été revu par quelques-uns de mes bons lecteurs, et qu'ils l'ont approuvé ou critiqué sur un mot que moi-même j'ai réfléchi et repris, je me suis dit, tu exagères. Tu fais ce texte et au fond, est-il exact ? Parce que pour moi, c'était quand même un texte sur des faits réels inventés. Alors, j'ai téléphoné au Cercil, où j'ai eu la chance d'avoir au bout du fil Nathalie Grenon, la directrice du Cercil, qui me connaissait par mes livres « Les enfants d'Isieux »,« Vita Rose », et qui m'a dit « Roland Cous, envoyez-nous ce texte, nous allons voir l'exactitude ». La historienne et elle l'ont lu, et dans un second téléphone, ils m'ont critiqué une petite chose de disposition que j'ai bien entendu reprise, mais tout était exact, d'autant que Nathalie Grenon avait rencontré une vieille dame et qui lui avait parlé de ces cris effrayants des gamins abandonnés à eux-mêmes. Car un certain nombre tombent malades, vont à l'hôpital, 4 vont mourir, c'est l'horreur. Manque d'hygiène, manque de nourriture, enfants trop petits et abandonnés, c'est vraiment l'horreur totale. Donc, Nathalie Grenon, la directrice du Cercil, m'a dit « Roland, vous avez un éditeur ». Je dis « Je n'ai pas encore cherché, je fais d'abord les textes pour qu'ils soient le plus exact et en tout cas que moi, je sois en accord avec mon texte ». Et elle me dit « Si vous voulez, on vous le publie ». Alors nous nous sommes rencontrés, nous avons convenu de prendre Gilles Rapaport comme illustrateur car j'ai déjà fait 2 livres avec Gilles, Ita Rose et Alex et Léon dans les camps français aux éditions Circonflexes. Gilles a lui-même fait un très beau livre qui s'appelle Grand-père, donc nous avons une amitié, une communauté de travail, de sensibilité, et nous avons pu aller jusqu'à ce livre qui est un album sans lettres comme d'habitude, car le texte vient seul, dans toute sa force, et ensuite Gilles ne fait pas des illustrations, il fait des dessins. Il le repense, il y a le texte en mots, il y a le texte en dessin. Et en fait, je pense que, et on nous le dit, c'est un livre d'art.
Absolument. Et d'ailleurs, du coup, on se pose même la question, est-ce que c'est un livre pour la jeunesse ?
Alors, vous savez, les meilleurs livres pour la jeunesse, Les enfants d'Isieux en sont un exemple, il y a 2 versions. la version poche pour les jeunes, une version plus luxueuse pour les adultes avec exactement le même texte. Et là, c'est pareil. Gilles l'a montré récemment à des professeurs qui ont dit on le travaille dans nos classes, troisième, seconde, première. Mais d'autres gens qui l'ont vu ont dit c'est un livre d'art. Mmh. Donc, ça va être là son problème, du reste. Mmh. C'est un livre un petit peu inclassable. Moi, je crois que c'est un livre d'art destiné à des jeunes à partir de 10, 11, 12 ans et à des adultes, bien entendu. À Pithiviers, nous l'avons présenté et il a été acheté par de nombreux adultes qui l'achetaient pour des classes, mais aussi pour eux.
Les illustrations sont vraiment saisissantes. Hein. Ce texte avec ses calques, on retrouve les photos des vrais enfants, en fait, qui vient se superposer à l'image de ces enfants sans visage.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais redonner par des mots justes le souffle de vie à ces enfants-là. Je voulais, par mes mots, leur redonner une voix perdue. Et je crois que là, effectivement, il y a les mots, il y a la photo de quelques enfants qui sont là dans leur présence, absence bien entendu, et il y a toute la douleur dans les illustrations de Gilles, de cette séparation de ses mères avec les enfants, et je crois que c'était pour moi l'instant le plus bouleversant, et de ses enfants abandonnés.
Vous aviez déjà écrit sur la Shoah, hein, notamment Les enfants d'Izieux dont on a parlé, édité en 1992 chez Syros, qui a fait l'objet de nombreuses rééditions depuis, et encore Oradour, La douleur, en 2001, enfin, qui est sur la guerre. Vous avez aussi écrit un essai sur la littérature pour enfants, et vous êtes, comme vous vous qualifiez vous-même, une enfant de la guerre. En quoi ces épisodes font écho à votre propre histoire ?
Mon histoire, j'étais petite fille pendant la guerre, d'une famille de résistants. Mon oncle dirigeait un réseau de résistance dans l'Yonne. Tout allait bien, j'étais dans ce village. Des jeunes du STO qui avaient refusé de partir étaient là. Et puis un jour, heureusement, on est venu prévenir mon oncle que certainement une descente des Allemands allait venir. Mon oncle a pu faire disparaître ces 21 jeunes qui étaient dans le village, mais il restait pour qu'on n'arrête pas ma tante. Effectivement, le lendemain matin, le village a été cerclé par des Allemands de la Wehrmacht, par quelques gestapistes qui ont arrêté mon oncle, deux autres résistants. Mon oncle a été battu. La ferme et la grange où, par une dénonciation, il y avait eu des armes qu'il avait pu enlever, on les avait mis dans le cimetière, a été brûlée. Heureusement, il n'y avait plus d'armes. Je ne sais pas ce qui serait passé s'il y avait eu des armes. Nous avions devant notre maison, moi je n'habitais pas chez mon oncle, j'avais une petite maison avec ma grand-mère un peu plus loin, un Allemand devant la porte. On a pu partir par les fenêtres de derrière et j'ai entendu les cris de mon oncle qui était battu. Par ailleurs, plus tard, ma mère va mourir à cause de la guerre. Donc tout ça, dans la petite fille que je suis, a fait que mon imaginaire a été dévié. Et je peux dire aujourd'hui que c'est à travers, moi qui ne suis pas juive, mais qui avait ma meilleure amie en 6e et 5e, Berthe Graff, dont les parents étaient morts à Auschwitz, c'est à travers un chemin d'imaginaire qui est repassé par Auschwitz que mon écriture va. Elle ne va pas toujours par là, mais pour moi, l'écriture, c'est ma fêlure de guerre, ma sensibilité, la pensée aussi, et les mots travaillés pour dire toutes ces souffrances qu'ont pu vivre des enfants, toutes ces injustices, ces effrayantes tragédies, particulièrement autour des enfants juifs et bien sûr des adultes. Et là, en l'occurrence, en plus, je suis mère de ces mères qu'on a brutalement séparées de leurs enfants. Il y a des faits comme ça, injustice, d'une injustice totale. Par exemple, lorsqu'on a arrêté les 13 000 juifs au moment de la rafle du Veldiv, pour arrêter 13 000 juifs, il y avait 9 000 gendarmes, policiers et quelques Allemands. Ce chiffre est effrayant, parce que ces pauvres gens n'avaient rien pour se défendre et ils étaient pris de toute façon par la force de ces Français et après de ce régime nazi hitlérien qui voulait faire disparaître la race juive. Et ça, pour moi, c'est de la barbarie pure. Je n'en ai même plus les mots, car parfois, les mots ne peuvent pas dire. Il y a eu un avant des mots. Alors que faisons-nous, nous, écrivains? Eh bien, par nos pauvres mots, par la rareté de ces mots, par la cassure, par le broyage, par la métamorphose des mots, nous essayons de dire ces tragédies qui sont arrivées à ces familles et de les dire le mieux possible avec la sensibilité la plus forte, la simplicité la plus douloureuse.
En sachant que sur le moment même, il y a quasiment, enfin, les témoins de ce qui se passait, enfin, il y a peu de personnes qui sont allées protester, en fait. Enfin, on a une personne qui a été reconnue comme juste parmi les nations, Denise Tavernier, qui est allée protester auprès de la police pour dire, par rapport à ce qu'elle voyait et ce qui était en train de se passer au Veldiv. Mais sinon, dans l'ensemble, enfin, il y a eu quelques témoins, mais on a l'impression qu'à cette époque-là, les gens se sont tus.
Oui, je ne peux pas vous dire parce que moi je n'étais plus à Paris, j'étais en Bourgogne, j'étais petite. Je me rappelle, avant de partir en Bourgogne, les Allemands à Paris, les soldats allemands, et maman me serrait la main quand passaient des Allemands près d'elle. Ma mère savait que son oncle était dans la résistance, car c'était mon grand-oncle. Je pense qu'elle avait peur. Je n'ai pas de souvenir d'enfant à l'étoile. C'est après la guerre que j'ai pris conscience, et particulièrement avec mon amie Berthe Grave. Je suis arrivée en retard en sixième, malade. Je me suis assise à côté d'elle. Elle m'a demandé pourquoi j'étais en retard. Je lui ai dit parce que j'ai perdu ma mère. Elle m'a caressé la main. C'est tout. Et puis un jour, je lui ai dit « Et toi ?» Et elle m'a raconté qu'elle habitait chez sa tante et son oncle et que ses parents étaient morts à Auschwitz. Alors la grande émotion, moi mon père était rentré comme prisonnier de guerre. Donc j'avais un père. Elle n'avait plus personne. Et à la fin de la cinquième, elle est partie avec son oncle et sa tante en Israël. Je l'ai perdue de vue, je l'ai perdue pour toujours, je la cherche encore.
Vous qui avez beaucoup écrit pour la jeunesse, hein, je rappelle que vous êtes l'auteur de 50 livres pour la jeunesse, de recueils, de poèmes ou romans. Vous êtes donc bien placé pour répondre à cette question. Comment rendre compte de ce qu'ont vécu les enfants pendant la Shoah et surtout que dire aux plus jeunes ?
Je crois l'écrire le plus simplement possible, le plus vrai possible. C'est pour ça que après, lorsque mes textes sont finis, j'ai des lecteurs, une psychanalyste, une orthophoniste, un historien, et que là, nous voyons la plus grande exactitude. Et je dois dire que je fais beaucoup de lectures, par exemple des enfants d'Isieux, et que dans l'ensemble, les jeunes sont très sensibles à ce qu'il est arrivé à ces enfants juifs. Cela, on peut dire, même des enfants du Maghreb sont en participation avec la vie volée, avec l'assassinat de ses enfants. Ils le comprennent, ils le vivent, parfois ils en pleurent, parfois un rire hystérique peut venir aussi, mais ça, nous le calmons, nous le connaissons, c'est un rire de défense, mais souvent, c'est un grand chagrin. Et c'est pour cela que je continue, c'est pour ça que j'aimerais écrire maintenant « La Shoah avant la Shoah », c'est-à-dire cette mort de tous les Juifs lorsque la Wehrmacht est partie en Russie et que derrière il y avait ce gens qu'on appelait les Eisengruppen qui étaient là pour tuer les Juifs dans les villages, familles, enfants, tout le monde, pour dire, pour que le non-oubli existe et qu'on se souvienne de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est très très important, je crois, et c'est donc pour redonner quelques instants de vie à tous ces jeunes, ces enfants, ces adultes qui ont perdu la vie, à qui on a pris, volé la vie.
Et là, vous vous attaquez à ce qu'il y a de pire, en fait, dans la Shoah, hein, que ce soit les massacres des Einsatzgruppen ou que ce soit la séparation des mères avec les enfants. Enfin, on touche vraiment le paroxysme de la cruauté, de
Oui, de mais la je tragédie. Crois que si on ne la dit pas, cette dureté, cette barbarie, qui peut encore exister, qui existe de nos jours, ce qui est le plus effrayant dans certains pays aujourd'hui, on le voit. Si on ne dit pas cette barbarie, et moi j'ai pris la guerre parce que je suis petite fille de la guerre, parce que c'est ma sensibilité, mais j'ai écrit aussi Aura de la douleur, qui ne sont pas sur les enfants juifs, mais sur une barbarie. Je suis en train en ce moment d'écrire une biographie de Charlotte Delbo, où j'apprends encore plein de choses, dont un orateur grec, par exemple. On découvre toujours, de livre en livre, de texte en texte, des barbaries monstrueuses qui ont été faites à partir de l'hitlérisme, à partir du nazisme, et qui doivent être dites pour que on lutte contre celles qui sont faites aujourd'hui. Par exemple, le viol des femmes, qui aujourd'hui est une nouvelle arme de guerre effrayante, épouvantable dans le corps des femmes, parfois des enfants également, des fillettes. Donc, je crois qu'il faut lutter contre toutes ces effrayantes douleurs qui sont imposées au corps des gens qui l'on a mis hors du circuit de ceux que l'on est soi-même.
Donc j'allais vous demander justement quels étaient vos prochains projets sur ce thème.
Deux choses, je termine une biographie de Charlotte Delbo après avoir écrit une biographie de Janouk Korczak, qui était aussi très intéressante sur sa pédagogie, que l'on connaît parce qu'il est mort avec les 200 enfants de son orphelinat à Treblinka. Mais c'est un homme qui était médecin, pédagogue, et qui a écrit des textes qui sont encore valables aujourd'hui, et on n'en est pas toujours où il en était pédagogiquement par rapport à l'enfant. Et je finis cette biographie de Charlotte Delbo là sur sa vie de résistante, sa vie d'assistante de Louis Jouvet au théâtre. Le théâtre l'a aidée lorsqu'elle était à Auschwitz. Elle l'a communiqué à ses compagnes dans cette solidarité incroyable qu'il y avait entre femmes. Et elle a écrit 5-6 livres sur ces camps qui sont là aussi des sortes de traités d'exactitude, de froideur, de violence, parfois d'ironie sur ce qui a pu se passer au camp.
Merci Roland Cause. Je rappelle que Le Convoi des Mères vient de paraître aux éditions du CERCIL avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Qu'on le trouve au CERCIL à Orléans, bien sûr, au Mémorial de la Shoah, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et qu'on peut le commander, notamment auprès du CERCIL. Je rappelle aussi que la commémoration de la rafle du Veldiv où ont été arrêtés ses mères et ses enfants aura lieu le 20 juillet 2014 à 10h, avec aussi le 16 juillet à 18h le rassemblement organisé par les fils et filles des déportés juifs de France à l'emplacement du Veldiv au métro Bir Hakeim. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver: www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.